Si je vous dis que je suis gay, je sens, voilà, merci. Je sentais un petit flottement là, des petits sourires un peu narquois. C'est terrible comme quoi un mot peut évoquer
pas mal de choses.
Trucs bizarres. Surtout quand ces mots sont récupérés en fait. Même si c'est pas le même mot, hein, c'est pas la même orthographe, mais vous avez compris l'exemple que j'ai voulu. Ce matin, je voudrais voir, et pendant quelques dimanches, je pense trois, voir avec nous la notion de la révélation. La révélation, qu'est-ce que la révélation? J'invite à ouvrir votre Bible en Proverbes, chapitre 29, on va rentrer étape par étape dans la compréhension de ce terme, et on ne va pas se voiler la face, on va essayer effectivement de comprendre la nécessité de bien comprendre la notion de la révélation selon Dieu. Donc Proverbes chapitre 29 verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans limite, sans frein. J'espère que vous avez des freins sur votre voiture. Et même si c'est vrai qu'on prend une voiture pour avancer, c'est quand même bien pratique quand il y a des freins. Et vous pouvez facilement imaginer ce que là serait, pourrait être, si vous achetez une super voiture et que vous commencez à rouler. Et là, au moment de freiner, votre balade risque de s'arrêter là. Lorsque le peuple, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Est-ce que tout le monde a le mot révélation dans sa Bible?
Oui.
D'accord. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce mot-là.
Vision.
Vision. En fait, c'est le terme le plus près, mais j'ai fait exprès de prendre cette notion-là. On va voir étape par étape ce que signifie le mot révélation. Au travers de l'étude de ce thème, il y a un double objectif. Le premier objectif, et ça doit toujours être le nôtre, c'est de nous enseigner, de nous faire entrer dans la pensée de Dieu. Notre but, comme disait Paul, on veut avoir de la force, on va pour prêcher contre le mensonge, mais pour la vérité. Et nous devons toujours prêcher l'évangile pour dire ce qui est vrai, pour nous projeter en avant, pour que nous mesurions les projets que Dieu a pour nous, pour que nous puissions entrer dans l'avenir et l'espérance que Dieu a préparée pour nous. Il y a des trésors, quand on parle de révélation, il y a des choses qui sont en attente et qui sont pour nous. Ce n'est pas des questions d'illusion, de fantasme, mais il y a véritablement un héritage spirituel que Dieu nous a préparé, et Dieu veut que nous rentrions dans ses trésors, dans ses promesses, et il y a vraiment pour nous une première motivation, c'est celle de nous faire rentrer dans ce que Dieu veut au travers de ses révélations.
Amen.
Nous verrons que, on va développer ça tout à l'heure, mais j'ai mis trois catégories de révélations. Le second objectif, un peu à cause justement de l'usage détourné qu'il est fait de ce mot-là. Le second, c'est de nous mettre en garde contre l'utilisation, je dirais, parfois malhonnête, de la notion de la révélation. Il n'est pas rare, et je ne connais pas beaucoup d'églises, qui n'aient pas eu en son sein des hommes et des femmes qui ont perdu la foi, qui ont échoué dans la foi, qui sont morts dans leur foi, à cause de soi-disant hommes ou femmes qui avaient des révélations au milieu de nous. Il n'y a pas une église qui n'a pas connu en son sein des frères et des sœurs qui s'épanouissaient et qui aujourd'hui sont une sorte de cosmos spirituel, soi-disant parce que portés par leurs révélations ou par les révélations qu'on leur apporte. Et c'est pas sans émotion parce que il y a des visages Il y a des visages de ces hommes, de ces femmes qui étaient intégrés dans l'église, même certains qui étaient investis dans le service, certains qui marchaient d'une belle marche. Et voilà qu'on apprend qu'eux, ils sont partis à gauche, à droite, embarqués dans des choses qui nous surprennent. Et c'est pourquoi il est de ma responsabilité de nous enseigner dans ce qu'est la révélation selon Dieu. Parce qu'à chaque fois, on se dit, mais comment ça se fait? Mais pourquoi le frère est parti comme ça? Mais pourquoi la sœur est partie comme ça? Il peut y avoir différentes raisons. En tout cas, une des raisons pourrait être tout simplement le manque d'enseignement, le manque de clarté, le manque d'identité, le manque de repères, de compréhension de ce que révèle le mot compréhension, le mot révélation. Disons-le, nous aurons l'occasion de le revoir un peu plus tard, mais je ne veux pas non plus toujours m'éterniser sur cet aspect-là, mais c'est quand même un point essentiel. Disons-le tout de suite, c'est une manière de manipuler les gens que de parler sur coup de révélation. Il est tellement facile de dire, tu sais, le Seigneur m'a dit que. Parce qu'une fois que je t'ai dit ça, t'as plus rien à dire. C'est tellement facile de se servir de révélation pour manipuler. Parce qu'une fois que quelqu'un a parlé soi-disant au nom de Dieu, si vous ne rentrez pas dans sa vision, dans sa compréhension, c'est que vous n'êtes pas spirituel, tout simplement. C'est que vous n'êtes pas connecté comme lui, il l'est. Parce que lui, il a la révélation. Et derrière ce mot, il est grand, ce mot révélation. Il est waouh. Lui, il connaît des choses que je ne connais pas. C'est une manière de manipuler, de culpabiliser même les gens. Parce que si vous ne comprenez pas la révélation, c'est que vous manquez de foi. Et que pour peu que vous soyez un peu hésitant, vous êtes en train de vous forger contre Dieu même. Mais oui. Parce que si c'est Dieu qui l'a révélé et que toi tu n'es pas d'accord, c'est que tu résistes à l'Éternel, mon frère. Alors il y a des thèmes de prédilection, vous savez, dans ce domaine-là. Et c'est du vécu, hein. Le mariage. On retrouve toujours les mêmes points. Le Seigneur m'a dit que toi, là, ta femme, c'est elle. Ah ouais. Alors ça peut faire sourire comme ça. C'est toujours dans ces mêmes milieux. La révélation sur l'église. Ah, le Seigneur m'a montré que là, cette église-là. Non. Ouais, elle va là. C'est toujours les mêmes qui ont des révélations sur les péchés. Ah ouais, ils ont des révélations. Alors, sur vous, ils ont des révélations sur les péchés. Et sur eux, vous savez ce qu'ils ont comme révélation? C'est deux petits mots. Des grandes choses. Mmh. Mmh. Des grandes... Ah, le Seigneur m'a révélé. Des grandes choses. Ah, c'est quoi? Oh, c'est tellement grand. Oh, ça me dépasse. Mmh, bah, nous aussi. Non, mais... Faites attention, c'est toujours les mêmes rengaines qui viennent, toujours. Mariage, église, péché, grande chose. Alors dans le grande chose, j'ai cherché, ça fait des années que je cherche à comprendre grande chose, c'est ces deux mots-là qui reviennent toujours. Nous devons faire attention. Je veux croire en l'avenir de l'église Nancy. Et là où le blé est semé, l'ivraie est également jeté. Je veux croire en la croissance numérique, mais je veux surtout croire en la croissance spirituelle de l'Église d'Ancien. Et nous devons rentrer, par la grâce de Dieu, et en proportion de notre foi et de notre soif, amen, dans les révélations que Dieu a pour nous. Car il y a des révélations à découvrir, mais elles ne sont pas forcément de ce type-là. Claude, ne viens pas me dire que tel ou tel va se marier avec tel ou tel, s'il te plaît. Je prends lui en exemple, mais c'est une manière de nous inviter à être scrupuleux sur ce genre de domaine. Afin de bien comprendre et saisir la notion de révélation dans la Bible, on va voir plusieurs versets qui parlent de la révélation. Et s'il était possible, merci beaucoup, on va voir différents versets qu'on va aborder à fur et à mesure. Mais le mot révélation dans la Bible... que nous avons, nous, en français. En fait, c'est la traduction de plusieurs mots en hébreu et en grec. Ce n'est pas toujours le même terme, mais en tout cas, je vous épargne les mots grecs et hébreux, ou je m'épargne, je ne sais pas lequel. Les... En tout cas, vous en connaissez un. En grec.
Apocalypse.
Apocalypse, voilà. Alors ça, c'est la francisation du mot. Mais Apocalypse, si vous prenez une Bible en anglais, ça va être... Je ne vous le donne pas aussi avec un accent, je vous le donne avec l'accent français. Révélation, révélation, je dis blablabla. Mais voilà. Mais en tout cas, ce que je vous ai marqué là, c'est quelques significations littérales que nous nous trouvons en hébreu et en grec. Ôter le voile, manifester, rendre clair, montrer, déplier, expliquer, instruire, avertir. Vous comprenez ? Lorsque la Bible, lorsque nous avons, nous, le mot révélation, ça a toujours cette notion de rendre manifeste quelque chose qui était caché pour un temps. Rendre visible ce qui a été avant comme voilé, comme dissimulé, comme derrière quelque chose. C'est rendre compréhensible ce qui avant ne l'était pas. C'est pourquoi, derrière le mot révélation, il faut comprendre la notion de comprendre, de découvrir, de réaliser. D'ailleurs, le mot découvrir, hein, c'est on couvre, on découvre. Okay, c'est ça, c'est vraiment cette notion-là. Et la révélation, selon Dieu, c'est cette explication-là. On a l'exemple en Romains, chapitre 16, verset 25, où Paul va dire « La révélation du mystère caché pendant des siècles. » Il parle de Jésus. Il va parler de la révélation, parlant de Jésus, du mystère qui était caché pendant des siècles. Ben oui, parce que pendant des siècles, il y avait bien des prophéties qui étaient annoncées sur lui, mais c'était encore caché, c'était flou, c'était incertain, c'était comme un mystère. Et lorsque Jésus est apparu, il y a eu la révélation de ce mystère caché. Et c'est ça, la notion de la révélation. Malgré tout, il y a de nombreux passages dans l'Écriture et j'ai voulu présenter ces différents versets pour être le plus explicite. Et j'ai pu les ranger dans trois catégories de révélations. Alors, ce sont mes définitions à moi. Peut-être que vous trouverez des ouvrages beaucoup plus détaillés, j'en sais rien. Il y a On va étudier, on verra ce matin la notion de la révélation générale. Nous verrons la semaine prochaine la notion de la révélation de connaissance, qui elle est axée sur la parole de Dieu. La révélation qui est en concomitance avec la parole de Dieu. Et la révélation, ce que j'appellerais d'inspiration. Le Seigneur m'a montré, il m'a parlé. Voilà. Alors ce matin, on va détailler cette notion de la révélation générale. Qu'est-ce que j'ai voulu définir par notion de révélation générale? C'est ce que nous réalisons de nous-mêmes. Ok? La révélation, c'est comprendre, c'est réaliser, c'est découvrir. Et bien, il y a des choses que l'on comprend, il y a des choses qu'on réalise, il y a des choses qu'on découvre par nous-mêmes. Indépendamment de l'inspiration divine, indépendamment des anges qui régulièrement passent... vous disent des choses, hein, les anges vous parlent régulièrement, je présume. Hein. C'est une ironie. Indépendamment de ce que la Bible elle-même nous enseigne, il y a des choses qu'on réalise, découvre. Lorsque Anne a vu Philippe, la première fois de sa vie, c'était une révélation extraordinaire. Oh, laissez l'imagination grandir. Lorsqu'elle l'a vu, elle dit, oh, c'est lui. Et justement, non. Donc, il a fallu un moment qu'il y ait une révélation. Parce que pendant un temps, elle voyait juste un bonhomme là. Bon, il était beau, fort, intelligent, déjà à l'époque. Mais lorsque son cœur a commencé à l'aimer, elle a réalisé qu'il était véritablement le plus beau, le plus fort et le plus intelligent. Vous comprenez la notion de révélation? C'est que devant une chose qu'on peut voir comme ça, il y a un moment, quelque chose que l'on comprend, qu'on réalise, qu'on découvre autrement. Et c'est ça la notion de la révélation. Et il y a la notion générale. Alors si on reste sur un plan spirituel, pardon Anne, c'était juste un exemple. Merci beaucoup. Il y a des choses que même les gens du monde peuvent découvrir, réaliser, cerner. La foi, la pensée de l'éternité, la notion du bien et du mal. toutes ces notions-là ne sont pas le privilège de quelques gens qui ont été illuminés par la révélation des grands choses de l'Éternel. Il y a des gens, que l'on appelle païens, des incrédules, qui ont la notion de Dieu, même si ce n'est pas de Dieu, c'est de l'éternité. La notion du bien, du mal. D'ailleurs, c'est Paul qui en parle dans la première épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. Il écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Paul dit clairement que même sans forcément avoir lu la Bible, même si on est un incrédule, même si on ne veut pas croire, c'est pas possible, parce que quand on voit la nature, il y a quelque chose qui interpelle l'homme. Il y a quelque chose qui fait qu'il doit comprendre que derrière cette création, il y a forcément un créateur. Il y a forcément quelque chose qui interpelle la conscience de l'être humain et qui doit l'amener à réaliser qu'il y a un Dieu. Et il dira, c'est pour ça qu'ils sont inexcusables. Il continuera. D'ailleurs, oui, les miracles, les prodiges que nous pouvons voir, constater, servent à cela aussi. Il y a des gens, ils savent qu'il y a des miracles, des prodiges. Et ça doit réveiller la foi, la conscience plus exactement, sur la grandeur, la bonté de Dieu, sa puissance.
Amen.
Et nous devons réaliser que Dieu se sert de ces choses-là pour nous amener une révélation générale de lui, de sa personne, des choses spirituelles. Paul continuera dans la deuxième épître, dans l'épître aux Romains, pardonnez-moi, chapitre 2, versets 14 et 15. Quand les païens, donc il parle bien là des gens qui ne croient pas, des gens qui sont sans Dieu, sans le Dieu de la Bible, sans le Dieu de la révélation. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui sont sans loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Là encore, Paul explique que la notion du bien et du mal est révélée par la conscience. Et nous devons vraiment réaliser que quand Dieu parle de révélation dans sa parole, il nous amène progressivement. D'ailleurs, toute la Bible nous fait comprendre que la révélation de Dieu est progressive.
Amen.
Entre Abraham qui est là au milieu d'un peuple complètement païen et qui s'entend dire « Allez, va dans un autre pays » et la révélation que Jean a avec l'Apocalypse, c'est des siècles qui se sont passés. Et Dieu s'est révélé progressivement. Et c'est pareil, Dieu fait la même chose avec chacun d'entre nous. Personne n'est venu ici un jour, il s'est levé du matin, converti, rempli du Saint-Esprit, sachant plein de choses. Non, nous continuons à grandir dans la révélation.
Amen.
Et nous devons aussi prendre conscience que quand on parle aux hommes, aux femmes autour de nous, nous devons aussi accepter qu'ils aient cette première approche de la révélation. Ils doivent arriver à réaliser qu'il y a un Dieu, à réaliser qu'il y a une notion de bien et de mal. Et ça ne vient pas seulement de dire aux gens ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est mal. Ils doivent le réaliser d'eux-mêmes. Et nous sommes là normalement des exhausteurs de cet éveil de la conscience. Disons-le tout de suite, cette révélation ne sauve pas. Ce n'est pas parce qu'on a la conscience qu'il y a un Dieu. Il y a plein de gens qui, vous savez, sur cette terre, D'ailleurs, je crois que tout le monde croit qu'il y a un Dieu. Même ceux qui disent qu'ils n'y croient pas. Et au fond de leur cœur, ça travaille, vous savez. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose. Alors certains ont des religions, des entités, des principes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette révélation générale, peut-être un peu grossière, qu'on est forcément sauvé. Ce n'est pas parce que vous priez que vous êtes forcément sauvé. Ce n'est pas parce que vous êtes convaincu qu'il y a un Dieu que vous êtes forcément sauvé. Ce n'est pas parce que Dieu vous a guéri que vous êtes sauvé. C'est pas parce que votre cœur a été touché une fois à une réunion, oh c'était fort, j'ai senti quelque chose. C'est pas parce que vous êtes baptisé que vous êtes forcément sauvé, pardonnez-moi. Parce qu'on peut s'être engagé dans le baptême par émotion, ou justement parce qu'on est, rentré dans cette révélation générale. Vous avez pris conscience qu'il y a vraiment un Dieu, vous avez vraiment compris que Dieu exauce, vous avez vraiment vu des miracles et des prodiges, alors vous êtes fait baptiser parce qu'il y avait un éveil de la foi qui commençait à venir. Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez rentrer dans une maison, sentir la bonne odeur d'un bon gâteau, et ressortir de cette maison sans avoir mangé du gâteau.
Bien sûr.
C'est un peu frustrant quand c'est comme ça, hein? Surtout quand le gâteau, il sent encore bien le chaud du four. Mais il en est pareil. On peut venir à l'église évangélique, être dans l'ambiance. Vous comprenez ce que je veux dire dans le mot ambiance? Il y a une atmosphère spirituelle. On peut être porté. Porté par les prières, porté par la foi des uns, des autres. Combien de gens est-ce que j'ai entendu dire oh, « ça me fait du bien quand j'entends telle personne prier ». Certains disent « mais ça m'a saisi ce matin-là, dans l'échange, j'ai pleuré ». C'est bien. On est de l'ordre de la révélation générale, de l'émotion. C'est juste un voile qui commence à s'ouvrir, mais ce n'est pas ça qui sauve. La Bible nous dit que pour être sauvé, il faut confesser ses péchés. Et là, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. La parole de Dieu nous révèle quelque chose de précis. Et c'est par la lecture de la parole qu'on prend conscience que nous sommes pécheurs.
Amen.
On doit se détourner, là encore, pour obéir à la parole de Dieu. Peut-être qu'un jour, vous avez demandé sincèrement pardon à Dieu. Mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous n'êtes pas sauvé. On peut verser toutes les larmes de son corps, dire « Seigneur, pardon, change mon cœur, change ma vie. » Et bien marcher dans la vie spirituelle. Et puis un jour se dire « Bah, pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant d'énergie ?» Et la parole de Dieu revient en arrière dans notre vie. Mieux vaut la fin d'une
chose
que son commencement. Et les choses commencent toujours par une révélation. D'abord une révélation générale. Mais il faut aller plus loin. Et on verra ça les semaines venir. Et puis la troisième chose que Dieu nous demande de faire pour être sauvé, c'est de naître de nouveau.
Amen.
Un cœur nouveau. Vendredi, le thème c'était un regard nouveau, une considération des choses différentes, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le sens de la vie, etc. etc. Faisons attention de ne pas prétexter de révélation pour ceux qui relèvent tout simplement de la conscience. Ne confondons pas le bon sens et la révélation. Ah, le Seigneur m'a révélé que cet après-midi il va faire beau. L'exemple est un peu bête. Mais vous savez, les gens du monde nous entendent parler. Et n'ayons pas toujours à la bouche « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a montré. » Parce qu'il y a des gens du monde qui vont dire « Bah toi, il t'a dit ça, mais oui, moi aussi, je le savais. » Parce que ça relève tantôt du bon sens. Une expérience scientifique qui a été faite dans les années 2000. Et ils avaient pris alors là, en l'occurrence, c'était un astrologue. Donc ils avaient pris ces prédictions, sur une vingtaine, 22 prédictions, on avait évalué combien c'était accompli. Ils avaient demandé à un ordinateur, lui aussi, de faire 22 prédictions, de manière très aléatoire, un ordinateur. Et puis on avait demandé à quelqu'un, complètement daté, quoi, que ce soit, lui aussi, de faire des prédictions sur l'avenir, quoi, aussi 22. Eh ben, les 7 ont eu les mêmes résultats. Il y a même l'ordinateur qui en fait un résultat de plus. À peu près 7 réponses étaient correctes. Que ce soit le visionnaire, la révélation, que ce soit celui qui a du bon sens, ou que ce soit l'ordinateur de manière aléatoire, sur les 22 prédictions qu'ils avaient données, chacun avait effectivement trouvé 7 choses qui s'étaient accomplies. Ça veut dire quoi, cela? C'est-à-dire que c'est facile de balancer plein de « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé. » Et oui, Si vous en dites une cinquantaine, il y a des chances que vous ayez quelques dizaines même qui soient bonnes. Et là, vous allez dire quoi? Ah, tu vois, le Seigneur me l'avait dit. Et c'est là que je dis que c'est de la manipulation. Parce que c'est tellement facile. Pour être le meilleur des charlatans, plus vous direz, soi-disant, de prédictions, de révélations de le Seigneur m'a dit, et effectivement, dans le tas, il y a bien quelques-unes qui vont se passer. Peut-être que cet après-midi, il y aura un gros nuage et qu'il ne va plus voir science ni. Mais s'il fait beau, je vous le rappellerai. Vous avez vu, je vous l'avais dit. Vous voyez là, la manière un peu manipulatrice que l'on peut utiliser derrière le mot révélation. Faisons attention. Ne confondons pas révélation et bon sens. Hébreux chapitre 5, verset 14, je l'ai mis dans la révélation générale. Parce qu'il est parlé de ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Mais oui, plus on s'entraîne à comprendre, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et plus on va avoir de, ça s'appelle de l'expérience, de la maturité, du discernement. Je vous le relis dans une version plus courante qui dit « Ceux qui ont exercé leur faculté et ont ainsi acquis, par l'expérience, un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. » Soyons équilibrés. Il y a, et nous le verrons, des révélations que Dieu veut nous donner. Oui. Et j'espère que l'Église dans ce niveau va rentrer dans cette dimension de foi, de sensibilité. Mais il y a aussi le bon sens. Et j'espère que vous serez aussi des hommes et des femmes qui auront l'exercice du jugement, du discernement, sans forcément prétexter que le Seigneur m'a dit que. Si vous venez me voir et que vous me dites, tu vois Benoît, le Seigneur m'a révélé que l'Église a besoin d'un réveil. Je lui dirais oui. Mais oui, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'on est en train, soi-disant, de parler de choses spirituelles. Mais oui, l'Église d'ancien a besoin d'un réveil, amen. Mais soit la formulation est maladroite, parce qu'en fait, bon, effectivement, vous avez vu un temps de prière et puis vous avez vu vraiment ce fardeau sur votre cœur, et c'est bien. J'espère que vous avez ce fardeau sur votre cœur, que l'Église rentre dans ce réveil spirituel que Dieu attend. J'espère. Soit c'est maladroit, ou c'est juste une conviction, quelque chose qui pèse sur votre cœur, et donc effectivement votre conscience est éclairée sur cette nécessité spirituelle. Et alors, bon, dans une manière de phrase, le Seigneur m'a révélé, on peut le comprendre, ce serait d'ailleurs cohérent. Ce serait cohérent. Mais il y a de temps en temps, dans ces manières de parler, je dirais même quelque chose de malsain. Est-ce que ça voudrait dire que certains ne sont pas forcément capables de distinguer ce qui relève du bon sens et ce qui relève véritablement d'une inspiration spirituelle? Et il y a des situations qui ont été dramatiques. Le Seigneur m'a révélé qu'il faut que je passe 40 jours dans le jeûne et la prière. Mais c'est bien. Le problème, c'est qu'elle a embarqué son bébé avec elle. Parce que le Seigneur l'a révélé. Et il faut que nous soyons des hommes et des femmes matures, spirituels.
Amen.
Il y a des choses qui relèvent du bon sens. Mmh. Et du bon sens sanctifié, j'ai envie de dire. Bien sûr que on doit vivre chaque jour avec la mentalité du royaume de Dieu, avec le désir d'être inspiré de la mentalité de Dieu. Mais faisons attention. Je crois que j'ai voulu résumer cette phrase-là quelque part dans mes notes. Mes pensées doivent être inspirées de la mentalité du royaume de Dieu, mais toutes mes pensées ne sont pas inspirées.
Tout à fait.
Vous voyez la différence? Oui, ce que je pense, ma manière de penser, ma manière d'agir, doit être inspirée de la mentalité, du cœur de Dieu. Mais toutes mes pensées ne sont pas inspirées. Enfin, je dis moi, mais...
Pour tous.
Pour tous.
Ah, bah oui.
C'est cela. Et nous devons trouver cet équilibre. D'ailleurs, ça fait partie du quatrième commandement. Quatrième commandement? Ah, je me demande si je ne me trompe pas. C'est pas le quatrième commandement, j'ai pas vérifié, mille excuses. Ça va être le troisième. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Ça revient à ça. Les gens nous entendent parler Et quand on met un peu notre Seigneur, le Seigneur m'a dit à chaque bout de phrase, mais je ne croyez pas que vous êtes crédible, au contraire. Au contraire. Les gens vont finir par dire, mais lui, pour sacher sa baguette de pain, il a besoin que le Seigneur lui dise, mets tes chaussures, quoi. C'est...
Oui, tout à fait.
Alors, ils vont pas vous le dire, ils vont vous laisser parler, vous savez, les gens. Mais lorsque vous voulez, après, leur parler du salut de leur âme, ils vont dire, oui. Et puis après, vous allez venir, oh, Seigneur, je comprends pas, les âmes sont dures. Elles sont pas dures. C'est toi qui manques de sagesse, d'intelligence, de discernement. Il faut être cohérent.
Amen.
Ça revient du bon sens. Il y a des choses qui relèvent du bon sens et il y a des choses qui relèvent de l'inspiration spirituelle, que la Bible appelle révélation. Mais il faut que nous soyons vraiment crédibles. Et vous savez que le monde jugera toujours Dieu en fonction de nous. Alors, que nous soyons sages dans cette notion de la révélation. Amen.